on a prié pour ceux qui sont à la technique. La dernière fois que je suis venu ici, je me permets juste, en fait, j'ai l'habitude dans mon temple réformé derrière le lutrin, mais finalement, je me sens pas très à l'aise à être coincé derrière le lutrin, c'est pour ça que je viens là. Mais en même temps, je sais qu'il y a les gestes barrières, donc il ne faut pas que je m'avance trop. Donc voilà, je vais essayer de trouver un peu le juste milieu, et je vais vous embêter avec la technique, parce que ça se trouve, je vais changer un peu le micro. Bon, je suis désolé, déjà d'avance. La dernière fois que je suis venu ici, parce qu'André, tu parles il y a 2 ans, à Mantes-la-Jolie, eh ben, tu m'as fait la joie de venir au culte où j'ai été installé comme pasteur de cette église protestante réformée. Mais entre-temps, on s'est vu plusieurs fois, tu parles des pastorales, il y a eu une soirée de prière l'année dernière dans le temple réformé de Mantes-la-Jolie, dans le cadre de la semaine universelle de prière. C'est une semaine au mois de janvier où l'Alliance évangélique propose à toutes les églises du monde entier, principalement protestantes évangéliques, mais en fait à toutes les églises, de se rassembler pour prier pour la conversion du monde entier et pour la communion, une vraie communion de tous les chrétiennes et chrétiens du monde entier. Et donc on a vécu une semaine de prière l'année dernière avec un culte à Mantes-la-Jolie, et puis cette année on était ici. Et donc là, tu disais pardon aux techniciens pour les avoir malmenés. On veut proclamer aussi la victoire du Christ, puisque la dernière fois qu'on a fait donc cette soirée de prière ici, c'est pas toi qui a malmené les techniciens, mais c'est le malin, ceux qui étaient présents. La joie d'assister à l'ensemble. Ceux qui n'étaient pas présents, parce que c'était la majorité d'entre vous, vous étiez connectés par Zoom, il y a eu une panne réseau sur tout Aubergenville, je sais pas. Olivier, il a fait plein de recherches après pour nous dire voilà ce qui s'est passé, c'est un truc de dingue. Mais le Seigneur est victorieux. Donc, à la fois, là, tu as ton pardon à toi, tu vois, on a notre part, mais on reconnaît aussi les machinations du malin qui essaye de nous perturber dans notre relation avec le Père. Voilà. Je vous salue bien de la part de cette communauté. Normalement, mon épouse et les enfants vont arriver. Ils étaient en train de faire l'école du dimanche au moment où je suis parti. Et puis, ils vont débarquer pour vivre ce temps de culte avec nous. Je sais que mon épouse, elle va être très triste d'avoir loupé le moment de louange, parce qu'elle adore chanter la gloire du Seigneur, et vous l'auriez vu danser. Moi, elle essaye de m'apprendre à avoir un peu de rythme. J'ai pas beaucoup de rythme, je suis pas un bon chanteur et je suis pas un bon musicien, encore moins. Mais je rends gloire à Dieu pour ceux qui sont là à nos côtés pour nous permettre de le louer éternellement. Et puis le Seigneur, de toute façon, même les gens qui chantent faux comme moi, je sais qu'il les aime. Parce qu'il les a formés, et il sait que même si c'est un peu dissonant, et ben c'est quand même pour sa gloire. Je vous propose comme lecture pour commencer le temps de la prédication, la fin de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 4. Alors ça, c'est mon défaut de luthérien, j'ai tendance à dire saint Matthieu. Donc la fin de l'évangile selon Matthieu, chapitre 4. On est au verset 23, ça me sert juste d'introduction. Hein. Jésus va dans toute la Galilée, il enseigne dans les maisons de prière juives, il annonce la bonne nouvelle du royaume, il guérit les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs douleurs. On entend parler de Jésus dans toute la Syrie. On lui emmène tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des maladies, des douleurs de toutes sortes, ceux qui ont des esprits mauvais, ceux qui ont des crises nerveuses. On lui emmène aussi les paralysés, Jésus les guérit, et des foules nombreuses suivent Jésus. Elles viennent de Galilée, de la région de la Décapole, des 10 villes, de Jérusalem, de Judée, et de la région de la Transjordanie à l'est du Jourdain. Je vous ai dit, ça c'est juste mon introduction. Ce qui est intéressant, c'est parce que juste après, au chapitre 5, on va avoir un grand passage dans l'évangile selon saint Jean qui va du chapitre 5 au chapitre 7, que vous connaissez par cœur, qui s'appelle le sermon sur la montagne. Et on a l'habitude de dire que ce sermon sur la montagne, eh ben, c'est le premier grand discours de Jésus. Et c'est le discours qui va faire qu'il va y avoir des disciples. Et le tout début de ce sermon sur la montagne, c'est les béatitudes, vous connaissez par cœur, heureux, laid, etc., etc., parce que ceci, cela. Et ce sermon sur la montagne, pour moi, c'est vraiment le début. Jésus, il n'y a pas eu de début avant ça. Alors tout à l'heure, béni sois-tu André, parce qu'on a réentendu que Jésus est l'alpha et l'oméga. Et avant le sermon sur la montagne, eh ben, Jésus était déjà, ouf. Il était déjà au commencement du monde. Et donc, en fait, même, et c'est pour ça que je viens de vous lire la fin du chapitre 4, avant même qu'il commence son grand discours et ses béatitudes, eh ben, il est déjà en train de vivre son ministère terrestre. Jésus, il vient de recevoir le baptême, il est envoyé par l'esprit du mal dans le désert pendant 40 jours, et puis il commence à appeler, après sortir du désert, il commence à appeler ses premiers disciples. Il y en a un qui s'appelle André d'ailleurs, et je bénis votre futur pasteur aussi, puisque j'ai vu qu'il s'appelait Pierre-André. Waouh! Dites donc, là, vous passez de un des premiers disciples à deux des premiers disciples à travers la figure d'une personne, gloire à Dieu. Et donc, Jésus, il appelle ses premiers disciples, ses quatre premiers disciples, et dans ce que je viens de vous lire, il commence à enseigner. Et il ne fait pas simplement d'enseigner, il produit des miracles. Jésus, il est thaumaturge, vous le savez, ça. C'est quelqu'un qui guérit. Jésus, il vient, il voit les personnes qui sont malades et il les guérit. Il voit les personnes qui ont des névroses, quelles qu'elles soient, et il vient et il les guérit et il les soigne. Et le texte que je viens de vous lire, là, que vous venez d'entendre, c'est qu'il y a des foules entières qui commencent à suivre Jésus. Il y a des foules entières qui commencent à avoir envie de toucher Jésus. Il y a des foules entières qui commencent à avoir envie de voir Jésus, de sentir Jésus, d'écouter Jésus. On pourrait presque, on a presque envie de dire les cinq sens, allez, vas-y, de goûter Jésus. Bon, ça, non, ça va pas être maintenant. Ça sera au moment où il y aura la Sainte Cène, juste avant que Jésus meure. Mais là, déjà, Jésus, voilà, mon épouse et les enfants, je suis très heureux de vous voir venir jusqu'ici. Merci Isabelle, merci Jonas, merci Naoum, merci Esther. C'est une bénédiction que vous soyez à mes côtés. Merci. Et donc Jésus, du coup j'ai perdu le fil. La foule, elle a envie de toucher Jésus. Elle a envie de le voir, elle a envie de le sentir, elle a envie de l'écouter. Elle a envie vraiment de se mettre comme des disciples avec un maître, de se mettre à la suite de ce personnage un peu extraordinaire. Quand il est en train de dire quelque chose, il se trouve que apparemment ça se réalise. Et pas simplement apparemment, puisqu'il y a des personnes qui sont paralysées qui se retrouvent à pouvoir marcher. Là, on n'entend pas exactement quelles sont les maladies concrètes, mais on va le voir après, dans tout le ministère terrestre de Jésus. Les paralysés, les boiteux marchent. Olivier, je pense que tu vas marcher beaucoup mieux encore. Hein, et je dis la même chose pour ton frère. Et les gens qui sont aveugles vont voir. Et les gens qui sont sourds vont entendre. Jésus va toucher les cinq sens. Il va véritablement toucher les cinq sens de ceux qui s'approchent de lui. Moi, tu l'as dit, André, je viens du luthéranisme. Et là, je suis dans une église réformée évangélique. Et globalement, on a beaucoup de mal avec le corps. Moi, les jeunes, eh ben, quand j'étais enfant, je pensais qu'être à l'église, c'était être assis tout le temps et qu'il fallait bien respecter ce que le pasteur disait, s'asseoir, se lever. Il ne faut pas faire trop de gestes, il faut être très, très calme. C'est comme ça que je vivais le culte quand j'étais enfant. Et puis, quand j'étais un petit peu plus post-ado, un peu plus jeune adulte, eh ben, j'ai découvert que mon corps était un sujet de gloire du Seigneur et que je pouvais l'utiliser en entier. Et du coup, je me suis mis à danser, à chanter dans tous les sens, même si, comme je le disais tout à l'heure, je chante faux et que je ne danse pas forcément en rythme, j'y vais à fond. Alors ça, c'était l'introduction. Jésus qui commence à se faire suivre par les foules. Et puis quand il y a un certain nombre de personnes qui est là face au Christ, comme là, sauf que je ne suis pas le Christ, il est là, il y a la croix derrière l'écran de télévision. Le Christ est là, il s'installe, il monte sur cette montagne, et donc là, il a ce grand discours du sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7. Et dans ce grand discours, dans ce grand sermon sur la montagne, Jésus commence avec les béatitudes et puis il dit un enseignement sur qui sont les personnes qui sont face à lui. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ils viennent tout de suite, ils viennent de commencer à suivre Jésus et il leur dit, vous là, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Eux, ils sont tout juste rétablis. Ils ne connaissent pas encore très bien Jésus. Ils ont commencé à le suivre, on est bien d'accord. Mais ils ne savent pas encore tout parfaitement. Là, je regarde, C'est toi, Raphaël, c'est ça, qui vient de recevoir le baptême ? Rachel, excuse-moi. Rachel, donc tu viens de recevoir le baptême. À mon avis, tu ne maîtrises pas tout encore de la foi chrétienne, tu vois ? Mais comme les premiers disciples. Et pourtant, tu vois, et ben Jésus dit à ceux qui commencent à le suivre dans leur balbutiement, tu vois, qui viennent tout juste de recevoir le baptême, qui déjà osent un témoignage, tu vois, il leur dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, tu vois. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Et on ne met pas une lumière sous un boisseau. Au contraire, on la met sur le porte-lampe pour que sa lumière puisse resplendir partout. Ils en sont à leur balbutiement et Jésus leur fait confiance. Vous êtes désormais. De la même manière que quand Dieu a créé le monde, il a parlé et les choses sont venues, quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », eh bien, cela se produit. Au-delà de toutes nos capacités, au-delà même de toutes nos espérances, on devient sel de la terre, on devient lumière du monde parce que le Maître nous l'a proclamé sur nous. C'est une vraie consécration. C'est l'esprit de Pentecôte avant l'heure. L'esprit qui vient se répandre sur ces foules-là. Et à ces gens-là, ensuite, Jésus va avoir un enseignement ultra perturbant. Il va leur dire, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Et tant que le ciel et la terre seront là, et ben pas un seul iota, pas une seule virgule, pas un seul petit point sur le i ne passera. André, quand on s'est eu au téléphone cette semaine, je t'ai demandé s'il y avait une thématique particulière pour la prédication, si vous étiez dans un cycle. Tu m'as dit que vous étiez dans un cycle sur la transmission. Là, Jésus, il est dans la grande transmission, quoi. Il donne l'enseignement essentiel de tout son ministère terrestre. Tant que le ciel et la terre seront là, devant nos yeux, tant que le jugement ne sera pas arrivé, qu'on ne sera pas dans l'Apocalypse, pas un seul iota de la loi ne disparaîtra. La loi, elle est là, elle est donnée. Et ne croyez pas que je sois venu pour abolir cette loi. Moi, je viens du luthéranisme, hein, et dans le luthéranisme, ce que Martin Luther a beaucoup mis en avant, c'est la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Et quitte à dire, bon allez, la loi, ok, c'est bien, mais ce qui compte surtout, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'en fait, Luther était névrosé, et il avait tellement peur d'aller pourrir en enfer. Il avait que cette peur-là. Et du coup, il faisait des œuvres, non pas parce qu'il avait connu Jésus, même s'il connaissait Jésus, j'en suis convaincu, mais parce qu'il avait peur que même en connaissant Jésus, il allait pourrir en enfer. Il allait brûler dans la Géhenne. Et du coup, quand il a découvert que la justice de Dieu s'accomplissait au moyen de la foi, par la seule grâce de Dieu, parce que Jésus était mort une fois pour toutes, et qu'on avait juste par la foi à recevoir ce cadeau, alors il s'est dit, waouh, faut que j'annonce ça, c'est merveilleux, c'est la grâce. Là, vous le savez tous. Vous le savez tous. Vous êtes pas des névrosés d'avoir peur de tomber dans la Géhenne, on est bien d'accord. Vous savez que vous allez au paradis parce que vous avez une relation personnelle avec Jésus. Mais Luther, il était en effrayeur, totale frayeur. Il avait peur. Pas un seul iota de la loi ne disparaîtra. Et puis ensuite, Jésus a deux enseignements encore. Et je vais arriver enfin au texte que je veux aborder avec vous. Ça fait une longue introduction, excusez-moi. D'abord, premier enseignement après le « pas un seul iota de la loi ne disparaîtra ». J'allais dire Luther, non, Jésus. Jésus, il dit « si tu as un problème avec ton frère, eh ben, ne viens pas faire une... » Ouais, merci beaucoup. Ne viens pas faire une offrande au temple. » Tout à l'heure, on a passé, Charles a passé avec le panier. Ne viens pas faire une offrande dans l'église de ton Seigneur si tu as un problème avec ton frère. Aïe. Comment est-ce qu'on a donné tout à l'heure ? Par rapport à ma relation avec, avec ceux qui me sont très proches? Comment est-ce que réellement, dans quelle disponibilité de cœur j'étais quand j'ai mis ma dîme ou mes quelques sous dans le panier? Va d'abord te réconcilier. Quitte l'église, quitte le temple. Va d'abord te réconcilier. On pourrait prêcher là-dessus, mais ce n'est pas là-dessus encore que je vais prêcher. Enfin, j'arrive sur le texte. Juste après ça, Jésus va avoir un discours sur l'adultère. On t'a enseigné, ne commets pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, chaque fois que vous regardez une femme avec désir, chaque fois que vous regardez une femme avec désir, vous commettez l'adultère. Chaque fois que vous regardez une femme avec désir, vous commettez l'adultère. Et il vaut mieux pour vous vous débarrasser de votre œil, celui qui vous fait commettre l'adultère, l'adultère en pensée. Il vaut mieux vous en débarrasser et le jeter que d'être jeté dans le feu, dans la Guéhenne. Et puis si ta main droite te fait chuter, il vaut mieux couper ta main, ton bras, ta main droite, tout le côté droit là. Il faut mieux t'en débarrasser parce qu'il vaut mieux que tu rentres dans la vie avec une seule main, un seul bras, le bras gauche, plutôt que tu meurs tout entier dans la Guéhenne. Alors je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes sauvés, hein, vous n'allez pas aller dans la Guéhenne. Hein. Non, n'empêche que quand cette semaine j'ai lu à Jonas, à mon aîné, et à Isabelle, à mon épouse, ce texte-là, et je leur ai dit, je crois que le Seigneur il veut que je prêche sur Matthieu 5, sur cet œil qu'on doit jeter, cette main droite qu'on doit jeter, hein, cet œil droit qu'on doit jeter. Ils m'ont dit, oh là 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 là, là c'est terrible. T'es sûr que c'est là-dessus que tu veux que le Seigneur il te donne à prêcher à Aubergenville? Tu en connais quelques-uns à Aubergenville. La première fois que tu es venu à Aubergenville, Arnaud, c'était quand il y a eu la présentation du petit Simon. Donc tu en as vu quelques-uns à Aubergenville, mais tu ne les connais pas assez. C'est terrible ce que tu dois prêcher. Tu es sûr que c'est ça? Et en fait, je ne sais pas hein, pourquoi, mais le Seigneur, il m'a donné cette conviction que c'était sur ce texte-là. Adultère, mais surtout, être capable de jeter son œil droit, de jeter sa main droite. Alors là, il faut que je prenne un peu mes notes, sinon je vais me perdre un peu. Terrible. Pourquoi ? Parce que Jésus vient annoncer la rupture que Dieu désire. Dieu nous a formés, il nous a créés, les enfants, les adolescents. Il nous aime fondamentalement. Mais il y a quelque chose chez nous, il y a quelque chose dans notre vie de tous les jours, il y a quelque chose dans nos désirs de tous les jours qui n'appartient pas à Dieu. Et Jésus, il vient pour couper dans le lard, quoi. Et nous dire, je t'aime tellement, mais il va falloir choisir, quoi. Il va falloir choisir. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Il va falloir que tu fasses un choix radical pour ta vie. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est la bénédiction que Dieu donne, l'onction que Dieu donne sur chacune et chacun d'entre nous. Mais attention, nous dit Jésus, si ton œil te fait chuter, si ta main te fait chuter, et plus tard, dans le même évangile selon Matthieu, il va dire si ton pied droit aussi te fait chuter, eh bien coupe. Et Jésus, il vient comme ça, on dit c'est une épée à double tranchant, il vient pour couper dans le lard, quoi. C'est terrible. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'humains, on aimerait bien un peu tout concilier. On aimerait bien concilier ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans le monde spirituel. Je reviens toujours sur Luther. Il disait, on est citoyen des deux royaumes. C'est une des grandes phrases de Luther. On est citoyen du royaume terrestre et on est citoyen du royaume céleste. On est citoyen de ces deux royaumes. Et donc, on a un service à accomplir pour le monde terrestre et un service à accomplir... Oh, t'es un amour, vraiment. À accomplir pour le monde terrestre. Non, le monde céleste et le monde terrestre. Voilà, je m'en mêle. Et donc... On a envie, en tant qu'humain, merci beaucoup, t'es au top, on a envie en tant qu'humain de tout concilier. Ce qui se passe dans le monde terrestre et ce qui se passe dans le monde céleste. Et Jésus nous dit, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Et aujourd'hui, alors qu'on a des histoires de changement des lois bioéthiques en France, alors qu'aujourd'hui, il y a des trucs sur les chartes cité dans les écoles, alors qu'aujourd'hui on met à mal l'ordre donné par Dieu, par exemple dans la famille. J'ai entendu dire que dans certaines écoles, on disait ouais, les parents, c'est du n'importe quoi, c'est que des parents violents et il faut les renverser et que ce qui compte c'est l'enfant avec ses droits. Vous savez, c'est pendant les périodes de droits de l'enfant. Je dirais pas dans quelle école ça se passe. Et on a envie un peu d'essayer de tout concilier. Et Jésus nous dit, non. Moi, je suis venu pour, de manière radicale, couper. Et vous aider à couper, à faire des choix. À ne pas vous laisser simplement avancer de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année, jusqu'à arriver au moment où vous allez mourir. En essayant d'avoir fait le grand écart entre les choses du monde et les choses du royaume de Dieu. Et c'est vrai que c'est terrible, en fait, comme enseignement. C'est terrible. Et pourtant, c'est à ça que nous sommes appelés. Et je regarde vers vous, hein, les ados en particulier, parce que je sais que c'est compliqué. Nous, finalement... Même au travail, etc., on est catalogué comme chrétien. Nos amis, c'est des chrétiens. On est un petit peu bien entre chrétiens. Et puis voilà, ça y est, on vit le royaume de Dieu sur terre, dans notre communauté. On a nos activités, on a nos groupes de prière, on est dans notre soi. Mais vous, dans vos écoles, vous êtes en plein dans le monde. Mais gloire à Dieu, en fait. Gloire à Dieu que vous soyez placés là, que vous soyez aux premières loges, parce que Dieu fait de vous des soldats pour lui. Et il vous dit, ah ah, tu te crois petit, tu te crois faible, eh ben tiens, je t'envoie au combat. Je t'envoie dans le monde et tu vas pas pouvoir faire le grand écart entre les choses du monde et les choses du royaume. Dans le monde, je vais te montrer que tu vas devoir choisir et signifier au monde entier que tu m'as choisi. Moi, le Seigneur, ton Dieu. Donc c'est terrible, l'enseignement de Jésus. C'est terrible parce qu'il nous met face à la réalité de ce truc qui est en nous et qui essaye de concilier ce que le monde désire et quel péché. Et quel péché. Et alors Jésus, là, il parle d'un péché en particulier. Il parle de l'adultère. Le fait que dans son discours là, c'est l'homme qui fait l'adultère. C'est celui qui regarde une femme avec envie. Mais on pourrait aller tout à fait dans le sens de la femme aussi qui fait un adultère. Donc à partir du moment où on est en situation d'être en couple, d'être marié et d'aller voir quelqu'un d'autre, d'avoir un amant, d'avoir une maîtresse. Là, c'est le péché très précis que Jésus mentionne. Mais en réalité... Jésus, il parle souvent, non pas d'un petit bout d'ongle, mais il prend l'ensemble, quoi. Jésus, quand il nous vise sur le bout d'ongle, mais en fait, il veut regarder le corps entier, quoi. Il se trouve que dans le Premier Testament, l'adultère, c'est une image qui est beaucoup, beaucoup utilisée pour parler de la relation entre Dieu et son peuple. Et le fait que le peuple de Dieu, trop souvent, il n'est pas fidèle avec Dieu, comme une épouse ne serait pas fidèle à son mari, mais il va vers d'autres divinités, vers de l'idolâtrie. Et dans tout le Premier Testament, et il y a un prophète en particulier qui est le prophète mis en avant comme ça pour montrer ça, pour signifier ça. Il s'appelle Osée, et c'est vraiment Osée. Osée, Dieu lui a dit, il y a un livre qui s'appelle Osée, c'est vraiment Osée, hein, ça ne vient pas de moi. C'est, et Osée, Dieu lui a dit, va prendre une prostituée comme épouse. Va prendre une prostituée comme épouse et du coup, elle aura plein d'amants. Et en faisant ça, eh ben, tu vas montrer au peuple que dans ses actions, il est sans cesse en train de vivre avec plein d'amants ou plein de maîtresses, si vous voulez, spirituellement parlant. Au lieu de ne choisir qu'une personne, le Seigneur mon Dieu, le Seigneur votre Dieu, notre Dieu, eh ben, trop souvent, mon peuple va avec d'autres divinités. Alors c'est facile, hein, d'autres divinités. On pourrait dire, c'est bon, j'ai pas de statue de Bouddha dans ma maison. J'ai jeté des statues de Bouddha. Je confesse devant vous, j'ai eu des petites statues de Bouddha avec mon épouse. Des choses qui, vous savez, qui calaient les livres là. C'était bien, un Bouddha, c'est gros là. Donc c'était bien pour caler les livres. Et puis on s'en est débarrassé, gloire à Dieu. Et donc ça, on peut dire, ok, j'ai pas ces Bouddha, chez moi c'est propre, il n'y a pas ces idoles-là. Mais ça, c'est ce qui est visible. Bien, on en a des idoles. On en a des choses qui ne font pas la gloire de Dieu. On a chanté tout à l'heure qu'on veut la gloire de Dieu, qu'on veut avancer vers la volonté de Dieu, que c'est notre plaisir, que c'est notre jouissance, on a envie d'aller vers Dieu. Et puis là, on se dit ça, et puis demain, on va courir derrière le monde. Et on va se remettre à fond dans le travail et considérer que notre travail, eh ben, c'est ça qui nous fait vivre, et uniquement notre travail. Ou alors c'est notre famille qui nous fait vivre, et uniquement notre famille. Ou alors c'est nos relations amicales, ou alors c'est d'aller dans les bars et dans les restaurants parce que les pauvres, ils ont souffert pendant la pandémie, pendant les moments où c'était fermé. Et donc, ce qui va faire vivre, c'est maintenant le fait qu'on aille chez les commerçants. Et on va avoir comme ça, on va se focaliser, non pas sur le Seigneur et sa volonté, mais sur des idoles de ce monde. Sur des idoles de ce monde. J'ai regardé cette semaine le programme pour les départementales et pour les régionales. C'est intéressant, hein ? Qu'est-ce que proposent les uns et les autres ? Quels sont les objectifs qu'ils offrent ? Quels sont les objectifs qu'ils offrent ? Et en quoi, en tant que chrétien, on est en train de faire le grand écart entre les objectifs de ce monde et les objectifs de Dieu, qui rendent gloire à Dieu, et à Dieu seul. Et qui des fois, donne une claque, quoi. Il y a des fois où Dieu, comme Jésus de terre, je vous le disais, il y va, quoi. Il tranche dans le lard. Alors, ça fait du mal, hein. Quand le Seigneur Jésus-Christ, il nous montre l'état de notre péché, hein, l'état de nos idolâtries, de tous ces moments où finalement, avec l'image de l'adultère, on a trompé. Mais cette image, je veux quand même revenir un peu dessus, parce que c'est une bonne image, je trouve. C'est une bonne image parce que aujourd'hui, on entend beaucoup le discours qui dit, pour éviter que des femmes se fassent violer dans la rue, il faut éviter qu'elles aient des jupes courtes. Pour éviter que des femmes subissent des violences de la part de leur mari, eh ben, faut éviter qu'elles se mettent en travers du chemin du bonhomme, quoi. Pour éviter que des femmes se fassent interpeller dans la rue, eh ben, il vaut mieux qu'elles se voilent le visage et qu'on ne voit pas leur forme. Or, Jésus, ici, ne dit pas, ne commet pas d'adultère en mettant des sacs sur toutes les femmes. Des bons sacs poubelles, là, des grands. Jésus dit, si ton œil te fait commettre l'adultère, arrache-le. Aujourd'hui, on est dans un enseignement du Christ qui nous dit, tu es en responsabilité par rapport à ta gestion du péché. Tu es en responsabilité. Le péché est là, il est tapis à ta porte, et tu as un choix à faire. Est-ce que tu lui ouvres grand la porte et où tu lui dis, allez, viens, viens, on va faire la fête ensemble. On va aller zioter toutes les femmes avec concupiscence. Le péché est là et il attend. Et il attend. Est-ce qu'on lui ouvre la porte? C'est possible de dire, ok, il est là, mais du coup, il est trop fort pour moi, donc je vais mettre des sacs sur les femmes. Mais Jésus ne nous dit pas, le péché, il est trop fort pour toi. Jésus, il vous dit, vous pouvez ne pas commettre l'adultère. Vous pouvez ne pas le commettre. C'est une possibilité qui vous est donnée à vous qui êtes celle de la terre et lumière du monde. Vous voyez la cohérence dans l'enseignement du Christ, c'est vraiment un ensemble. C'est pour ça que c'est important que je vous fasse cette longue introduction de tout à l'heure. Vous êtes celle de la terre et lumière du monde, et donc vous avez la capacité maintenant, vous avez l'autorité pour ne plus céder à la tentation. Ne plus céder au péché. Il est là. Il me propose de cliquer sur telle vidéo, telle autre vidéo, de passer des heures sur Netflix jusqu'à 5 heures du matin et après de ne pas dormir et puis après d'être énervé, en colère. C'est pas mon histoire personnelle, évidemment. Le péché, il est là et on a autorité pour lui dire non. Netflix, je te raccroche ou je quitte l'abonnement. Amazon, t'es bien gentil, mais je sais que tu fais travailler des petits-enfants en Chine. Donc je te remets juste à ta juste place. Je me dois de reconnaître que le péché est là et qu'à certains moments, alors que j'avais le choix de dire oui ou de dire non, eh ben j'ai dit oui, j'ai cédé à la tentation. Et dans ce cas-là, le Christ me dit, arrache ton œil. Arrache ton œil et jette-le loin de toi. Prends la mesure de ce que tu as, de ce que tu as fait. Véritablement, prends la mesure. Ce n'est pas un petit truc. Avec cette histoire d'adultère, c'est intéressant parce que si moi, par exemple, je regarde avec envie Sonite, si je regarde avec envie Sonite, eh ben Olivier ou Isabelle ne vont pas le savoir, puisque c'est juste moi dans ma tête. Et même Sonite ne va pas le savoir. C'est ce que je peux me dire. Je peux me dire, pas de problème, c'est moi dans ma petite tête, je me suis imaginé des trucs avec Sonite. Sauf que Jésus me dit, à partir du moment où tu as fait ça, tu as laissé le péché entrer en toi et du coup, pourrir la relation. Alors, avec ta sœur en Christ Sonite, avec son mari, avec Olivier, et avec ton épouse, avec Isabelle. Alors, je ne confesse pas de péché avec Sonite, mais c'est juste pour vous donner un exemple, c'était facile, comme ça, j'avais mon petit couple là à disposition. Je pourrais me dire, je le garde juste pour moi. En fait, ça vient pourrir la relation entre Sonite et moi, entre Olivier et moi, entre Isabelle et moi, et surtout, ça vient pourrir avec le Seigneur, t'as raison. En fait, ça vient tout pourrir. Et dans ces cas-là, on pourrait se dire, ok, pas de problème, je vais me rasseoir, je reste à ma place, c'est pas grave. Non, parce qu'une fois que ça a commencé à pourrir à l'intérieur, eh ben ça jaillit, quoi. Depuis l'année dernière, on a mis un potager au temple avec Isabelle. Et j'y connais vraiment rien à la terre et à la gestion des plantes, etc. Mais du coup, j'apprends.
on a une gentille paroissienne qui nous apprend à enlever les gourmands sur les tomates, etc. Et puis moi, au début, je prenais mon arrosoir, enfin, on mangeait, et j'arrosais comme ça, à tout va. Et elle m'a dit, non, il faut que tu arroses au pied les tomates, parce que sinon, il y a le mildiou qui vient. Et elle m'a dit, elle s'appelle Germaine, elle m'a dit, s'il y a le mildiou qui vient, c'est foutu. Ton plant de tomate et ton pied est foutu. Et pire, il risque de contaminer les autres pieds de tomate qui sont à côté, les autres plants. Et bien, il en est de même avec le péché. Pas le péché en tant que tel. Le péché auquel on a cédé. La tentation qu'on a eue, auquel on a dit, allez, c'est pas bien grave. C'est un petit truc, ça se verra pas. Et de toute façon, c'est juste dans ma conscience, dans mon intimité devant mon ordinateur. C'est juste moi avec mon ordinateur. J'ai été sur un site qui... Voilà, mais c'était juste moi. Il n'y a personne qui est au courant. Il y a juste moi et mon ordinateur. Et peut-être mon fournisseur d'accès. Sauf que finalement, c'est comme le mildiou, ça va se répandre. Ça va tout pourrir. Arrache ton œil et jette-le loin de toi. Dans ces cas-là, quand on a péché, le Seigneur est bon parce qu'il nous aime tellement, Jésus. Notre Père nous aime tellement et le Saint-Esprit nous aime tellement. On a de la chance, hein ? On n'a pas un Dieu, on a trois personnes en un Dieu. Waouh ! Quand Dieu le Père, tout à l'heure on parlait avec Michel de l'image de Dieu, quand mon image de Dieu le Père, elle n'est pas tout à fait ajustée à cause de ma relation avec mon propre Père terrestre, eh ben j'ai de la chance parce que le Seigneur il m'a donné mon ami Jésus, il m'a donné mon grand frère Jésus. Et puis des fois, eh ben Jésus il me fait du mal comme ça, il me dit un discours un peu terrible. Eh ben heureusement le Seigneur il m'a envoyé mon ami le Saint-Esprit. Waouh. Grâce, on a d'avoir un Dieu trois en un. Si je ne sais pas, si je ne peux pas à un moment donné m'adresser à Dieu le Père, alors j'ai besoin de guérison pour rétablir cette relation avec le Père, mais je peux m'adresser au Saint-Esprit, je peux m'adresser à Christ. Je ne sais pas quel est l'enseignement, André et Michel, que vous donnez là-dessus, mais moi, je n'hésite pas à dire, vous pouvez prier Jésus, vous pouvez prier le Saint-Esprit. Je sais que dans certaines églises, on dit, ah, il faut prier que Dieu le Père. Peut-être que c'est votre cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je dis, allons-y, on a de la chance. On a trois personnes. Je reviens sur mon histoire de péché. Quand je me rends compte que j'ai cédé à la tentation, et je sais que vous en avez, hein, les ados des tentations, je le disais tout à l'heure au collège, etc. Eh ben, on peut aller voir quelqu'un et confesser son péché. Quand il y a eu le protestantisme qui est né, Luther il a fait le ménage. Certaines des choses il a fait le ménage, il y a d'autres malheureusement il a laissé. Mais il a fait le ménage un petit peu par rapport à des trucs de l'Église catholique. Et notamment sur les sacrements, il en a retenu plus que deux. Et c'est les mêmes que vous faites ici, la Sainte Cène et puis le baptême. Il a enlevé le sacrement du mariage, il a enlevé le sacrement de l'ordination, il a enlevé le sacrement. Michel. L'extrême onction et notamment la confession. Et en fait, Luther était un peu enquiquiné par rapport à cette histoire de confession parce qu'en fait, il voyait l'intérêt pédagogique de confesser son péché devant quelqu'un. Et en même temps, il était embêté parce que c'est pas dit avec les mêmes règles que ce qu'il avait défini pour dire ce qu'était un sacrement. Et donc, il a dit, il faut qu'on arrête ça, mais je vais recommander quand même à ce que les chrétiennes et les chrétiens osent trouver, alors c'était la figure du prêtre, du pasteur, mais osent trouver quelqu'un à qui confesser son péché. En tout cas, moi je remarque que toutes les fois où j'ai pu confesser à Isabelle mon péché, toutes les fois où il y a quelques années, je pouvais aller sur des sites qui n'étaient pas réglo, et ben ça a pu permettre de rétablir la confiance, d'avoir une réconciliation qui se refasse. Et que du coup, on puisse repartir sur de bonnes bases. Et de dire oui, j'ai commis un adultère en allant sur des sites qui n'étaient pas les bons sites. Mais merci Seigneur, et merci surtout Isabelle, de m'avoir remis debout. Alors, on peut confesser notre péché. on peut être rétabli par le Seigneur. Après avoir coupé, après, d'une part, avoir demandé pardon, mais éventuellement d'avoir coupé quelque chose de nous, d'avoir abandonné un désir qui serait en nous. Cet œil droit là, cette main droite, ce pied droit. A priori, moi je me dis, on a un corps, il est fait par Dieu, on l'utilise complètement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut profiter clairement et pleinement de son corps. Il faut apprendre à aimer son corps aussi. Et Dieu me dit, mais ton corps, finalement, il est important. Mais il vaut mieux qu'il ne il soit pas le lieu de la tentation, le lieu du péché. Et s'il y a quelque chose de ton corps qui vient pécher chez toi, qui vient céder à la tentation, coupe-le. Parce que c'est plus important que tu entres dans la vie. Il vaut mieux entrer dans la vie, il vaut mieux entrer avec Christ en étant handicapé, en étant fragile, en osant comme ça, comme vous l'a fait André tout à l'heure. Il faut être grand, hein, pour venir comme ça et devant tout le monde dire « Je demande pardon aux techniciens. » Il est votre pasteur de... Ça fait combien de temps, André, que tu es pasteur ici ? 35 ans. Et d'oser encore, au bout de 35 ans, avoir l'humilité de dire « J'ai péché. J'ai péché parce que je me suis mis en colère contre vous. Parce que ça n'allait pas exactement comme je voulais. » Waouh ! Vous avez un bon exemple, hein, avec André. Mais il faut être capable de couper aussi. Pour vous, communauté, vous êtes dans un moment un peu particulier, là. Où, évidemment que Michel et André, ils sont toujours là, Florence, mais vous allez accueillir un nouveau couple pastoral aussi. Concrètement, ce n'est pas l'œil, hein, qui fait péché. Concrètement, ce n'est pas la femme avec sa mini-jupe, avec ses belles formes, etc., qui est adultère. C'est mon cœur à moi qui fait que j'utilise mon œil pour penser avec cette femme qui a des belles formes, etc., qui pense à l'adultère. Pour vous, communauté, maintenant, c'est là le grand défi. Est-ce que votre œil ne va regarder que à Michel et à André ? Est-ce que votre oreille ne va écouter que à Michel et à André ? Est-ce que vos mains ne vont vouloir garder que Michel et André ? Est-ce que tout votre être ne va penser que Michel et André Hubert ? Moi, je bénis le Seigneur pour tout le travail qu'ils ont accompli avec vous ici. Et je bénis le Seigneur pour tout le travail qui va encore se faire. Parce qu'on ne vous jette pas comme ça. Hein. Mais maintenant, vous allez avoir un nouveau couple de pasteurs. Et si votre œil n'est attaché que à André Hubert ou à Michel Hubert, il risque d'y avoir des crispations en vous qui vont naître. Il risque d'y avoir de la colère, de l'amertume. Il risque d'y avoir de la rancœur. Vous appelez ça comme vous voulez. Il risque d'y avoir des trucs qui vont pas être tout à fait nets. Si votre œil vous pousse à pécher, à dire des médisances, par exemple, cas typique, hein. Je vais voir André en décembre et je vais lui dire « Oh là là, si tu savais, Pierre-André, ce qu'il a dit, ce qu'il m'a fait, ceci, cela. » Je te le dis parce que c'est toi mon pasteur. Parce que je t'aime, André, t'es mon pasteur, c'est toi qui m'as baptisé. Ça, c'est un risque, un vrai défi qui est devant vous. Si votre bouche, votre œil, votre oreille, vos mains vous poussent à pécher, alors il vaut mieux les jeter. Parce que avec ce grand défi-là, de changement de pasteur, de changement de couple pastoral, c'est votre avenir d'entrer dans la vie qui est en jeu. Est-ce que vous allez brûler dans la Guyenne ? Moi, j'ai confiance en Christ. J'ai confiance pour vous. Et j'ai confiance aussi dans la sagesse de Michel, d'André, elle s'appelle comment l'épouse ? Shina et de Pierre-André. Et j'ai vraiment confiance en vous, même si je ne vous connais pas forcément beaucoup. Il y en a à nouveau hein, que j'ai côtoyé, mais je sais que vous allez faire le bon choix. Parce que quand même, je crois que Dieu, il vous a conçu avec deux pieds, deux mains, deux yeux, une bouche, et que c'est pour l'honorer. Et que Dieu préfère quand même, in fine, que vous gardiez chacun de vos membres pour pouvoir continuer à l'adorer. Lui, le Seigneur votre Dieu. Je m'arrête là. Je vous propose juste de prier peut-être, parce que sinon ça va terminer de manière un peu trop abrupte. Voilà, Seigneur, merci pour les défis que tu mets face à nous. Merci pour les changements de saison, les changements de temps que tu proposes à cette communauté d'Aubergenville. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as pu accomplir dans le passé. Merci pour tout ce que tu vas accomplir dans l'avenir. Merci pour les guérisons de chaque membre de cette communauté. Merci parce que tu les as appelés et ils étaient malades, ils étaient fatigués, ils étaient souffrants, ils étaient dans des chemins qui ne t'appartenaient pas, qui ne t'honoraient pas. Tu les as relevés, tu les as guéris. Tu les as nommés tes enfants bien-aimés. Et Seigneur, il y a une tentation maintenant qui tapit devant leur porte. Il y a un péché qui est là et qui attend. Et moi, Seigneur, je veux proclamer ta victoire, déjà maintenant, sur ce péché-là. Seigneur, je veux te supplier pour la venue de ce couple pastoral et l'accompagnement par le couple Hubert. Seigneur, je te supplie pour ce temps aussi où il va falloir se dire au revoir, petit à petit. Je te supplie, Seigneur, parce que je crois que tu veux sauver chacun de tes enfants ici présents. Et que pour chacun ici présent, tu veux la vie et la vie en abondance. Je te supplie aussi, Seigneur, pour tous ces petits péchés qu'on a gardés dans la poche. Où on s'est dit, allez, c'est pas bien grave. Allez, Dieu me pardonne. Je te supplie pour qu'on ose aller vers la personne contre laquelle on a commis une offense, qui a vécu des répercussions spirituelles, émotionnelles ou physiques à cause de notre comportement. Je te supplie, Seigneur, pour que ce soit un temps vraiment de guérison et de réconciliation. Par le nom de ton Fils, notre bien-aimé grand frère Jésus-Christ. Amen.